Chapitre 2. Des souliers sur la route. 1. Ils atteignirent les chaussures en milieu de matinée. Au-delà, plus distinctement que jamais, se dressait le palais de verre. Il miroitait d'une teinte vert clair, comme le reflet d'une feuille de nénuphar dans une eau calme. On apercevait devant des grilles étincelantes, et au sommet de ses tours, des oriflammes rouges claquaient dans la brise légère. Rouges aussi étaient les souliers. Susanna, qui avait cru qu'il y en avait 6 paires, avait tort, mais son erreur était excusable, il y en avait en fait 4 paires, plus 1 quatuor. Les souliers formant ce dernier, 4 bottillons rouges foncés de cuir souple, étaient visiblement destinés aux membres à 4 pattes de leurs 4 têtes. Roland en ramassa un dont il tâta l'intérieur. Il ignorait combien de bafouilleux avaient déjà porté des chaussures dans l'histoire du monde, mais était prêt à parier qu'aucun d'eux ne s'était jamais vu offrir de bottillons de cuir doublés de soie. « Bali, Gucci et consorts n'ont qu'à bien se tenir, » dit Eddie. « Voici de la super bonne camelote. » Ceux destinés à Susanna étaient les plus faciles à reconnaître, et pas seulement à cause du détail féminin de boucles de brillants sur les côtés. Il ne s'agissait pas à proprement parler de chaussures, mais bien plutôt de prothèses faites pour s'adapter à ses moignons de jambes et montant juste au-dessus du genou. « Regardez-moi ça !» s'émerveilla-t-elle, en en levant une de façon que le soleil fasse étinceler le strass qui ornait les chaussures prothèses. Si c'était bien du strass. L'idée folle qu'il s'agissait d'un semis de diamant lui traversa l'esprit. « Des orthopèdes. 4 ans que je me travaille en état de diminution jambière, comme dit mon ami Cynthia, et voilà que je me dégote pour finir une paire d'orthopèdes. Ça fait réfléchir, je vous dis que ça. « Des orthopèdes, » fit Eddie d'un air songeur. « C'est comme ça qu'on appelle ça. »« Oui, mon joli, on appelle ça comme ça. » Celle de Jake était des derbies rouge vif qui, la couleur exceptée, n'aurait pas du tout été déplacée dans les salles de cours hautement civilisées de l'école Piper. Il vérifia la souplesse de l'un d'eux qu'il retourna. La semelle unie luisait. Nulle estampille du fabricant, mais il ne s'était pas vraiment attendu à en trouver une. Son père possédait une bonne dizaine de paires faites sur mesure. Jake savait donc en reconnaître quand il en voyait. Celles d'Eddie étaient des boots à talons cubains. Peut-être que dans ce monde-ci, on appelle ça des talons mégis, se dit-il. À bout pointu. Ce que, dans son autre vie, on surnommait des boppers. Les gamins des années 60... époque que d'État, Susanna, avait loupé de peu, aurait pu appeler ça des boots à la Beatles. Celles de Roland étaient bien entendu des bottes de cow-boy. Fantaisie, plus faites pour le square dance que pour rassembler les troupeaux. Piqûres en spirale, ornements latéraux, voûtes étroites et altières. Le pistolero les examina sans les ramasser. Puis jeta un coup d'œil à ses compagnons de voyage et fronça le sourcil. Ils se dévisageaient mutuellement. Impossible de se livrer à cette occupation à 3, auriez-vous dit. À 2, à la rigueur, mais c'est ce que dirait quiconque n'a jamais été membre d'un quatet. Roland partageait toujours le kef avec eux. Il ressentait le puissant courant de leurs pensées confondues, sans le comprendre pour autant. Parce que c'est celui de leur monde. Ils ont beau venir de camps différents de ce monde, ils voient ici quelque chose qui leur est commun à tous trois. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il. « Qu'est-ce que signifient ces chaussures ?»«
Je crois qu'aucun de nous ne le sait exactement, » répondit Susanna.
« Non, » dit Jake. « C'est une nouvelle devinette. »
Il jeta un coup d'œil de dégoût sur l'étrange mocassin rouge sang qu'il tenait entre les mains.
Une autre devinette de merde ?
Dites-moi ce que vous savez, dit Roland en fixant à nouveau le palais de verre. Il se dressait à 25 kilomètres environ à présent, scintillant à la clarté du jour, délicat et fragile comme un mirage, et pourtant aussi intangible et réel que... Eh bien, que ses chaussures.
J'ai dessouillé, t'as dessouillé, tous les enfants du bon Dieu, ils ont dessouillé, dit Odette. C'est l'opinion qu'a pignon sur rue.
Bah ça, pour en avoir, on en a, dit Eddie. Et tu penses la même chose que moi, non?
Je crois bien.
Et toi, Jake?
Au lieu de répondre par des mots, Jake ramassa l'autre mocassin. Roland ne doutait pas que les chaussures, celles de thé comprises, leur iraient à tous comme un gant. Et les frappa vivement l'un contre l'autre à trois reprises. Ça ne signifiait rien pour Roland, mais Eddie et Susanna réagirent violemment, regardant autour d'eux et surtout vers le ciel, comme s'ils s'attendaient qu'un orage éclate sous ce beau soleil d'automne. Pour finir, ils tournèrent à nouveau les yeux vers le palais de verre, avant de s'entre-regarder, encore une fois, l'œil hagard, avec cet air d'en savoir long qui donnait à Roland une furieuse envie de les secouer comme des poignets. Il se contint cependant et prit son mal en patience. Impossible parfois de faire autrement.
« Après avoir tué Jonas, t'as regardé dans le cristal ?»
fit Eddie en se tournant vers lui.
« Oui. »«
Voyager à l'intérieur ?»«
Oui, mais j'ai pas envie de reparler de ça pour le moment. Ça n'a rien à voir avec ces... »«
Je crois bien que si, » le coupa Eddie. « Tu as été emporté par une tornade rose. Par un cyclone rose, pourrait-on dire. On peut employer le mot cyclone à la place de tornade, hein ?
Surtout si on pose une devinette. »
« Bien sûr, » fit Jake d'un ton rêveur, comme un enfant qui parle dans son sommeil. « Quand Dorothy s'envole-t-elle au-delà de l'arc-en-ciel du magicien ? Quand elle ne fait plus qu'un avec le cyclone ?»«
On n'est plus au Kansas, mon chou, » dit Susanna, avant d'émettre un étrange aboiement sans joie qui supposa Roland pouvait passer pour un rire.
Ça a beau y ressembler un tantinet, le Kansas n'a jamais été aussi... Enfin, tu vois, aussi usé jusqu'à la trame.
Je ne te comprends pas, dit Roland. Il avait froid et son cœur battait trop vite.
Il y avait des tramées partout désormais. Ne le leur avait-il pas dit? Les mondes se fondaient les uns dans les autres au fur et à mesure que les forces de la tour déclinaient. Au fur et à mesure que se rapprochait le jour où la rose serait fauchée et ensevelie.
« J'ai vu des choses pendant que tu volais, » reprit Eddie. « Avant que tu n'arrives au pays de ténèbres que tu as appelé tonne foudre, tu as vu certaines choses.
Cheb, le pianiste, qui a ressurgi bien plus tard dans ta vie, par exemple, non ?»«
Oui, Atoll. »«
Et le frontalier roux ?»«
Oui, lui aussi. Il avait un oiseau du nom de Zoltan. » Mais lors de notre rencontre, on s'est contenté, lui et moi, d'une salutation banale. Longue vie à toi, longue vie à tes récoltes, ce genre de choses. J'ai cru l'entendre me dire ça quand il est passé près de moi en volant dans la tornade rose, mais il m'a dit autre chose en réalité. Il jeta un coup d'œil à Susanna.
J'ai vu aussi ton fauteuil roulant.
L'ancien.
Et puis la sorcière.
Oui, je... Adoptant un gloussement caquetant qui rappela de façon déconcertante à Roland celui de Rhea, Jake Chambers s'écria
« Je t'aurai, ma mignonne, et ton petit chien et tout !»
Roland le dévisagea, tâchant de ne pas rester bouche bée.
« Sauf que, dans le film, la sorcière n'est pas à cheval sur son balai, » précisa Jake, « mais sur son vélo, avec un panier sur le porte-bagages. »
« Ouais. » Elle n'a pas non plus d'amulette de la moisson, poursuivit Eddie. Dommage, ça aurait été un détail piquant.
Je vais t'avouer un truc, Jake. Quand j'étais gosse, son rire me faisait cauchemarder grave.
Moi, c'est les singes qui me flanquaient la trouille, renchérit Susanna. Les singes volants. Suffisait que je commence à y penser et je devais me faufiler dans le lit de mes parents.
Ils se disputaient toujours pour savoir qui avait eu la brillante idée de m'emmener voir ce film quand je m'endormais blotti entre deux.
« Ça m'a pas inquiété de frapper les talons l'un contre l'autre, » continua Jake. « Pas inquiété du tout. »
Il s'adressait à Susanna et à Eddie. Pour le moment, Roland n'existait plus, semblait-il.
« Après tout, je les portais pas. »«
Exact.
affirma Susanna d'un ton sévère. « Mais tu sais ce que mon papa n'arrêtait pas de me dire ?»«
Non, mais j'ai comme l'impression qu'on va pas tarder à l'apprendre, » dit Eddie.
Susanna lui décocha un coup d'œil noir avant de reconcentrer toute son attention sur Jake.
« Ne siffle jamais le vent, sauf si tu veux qu'il souffle, » énonça-t-elle. « Et c'est un bon conseil, malgré ce qu'en pense ce superbe Benet ici présent. »«
Ouh, la baffe !»
fit Eddie avec un grand sourire.
« Aff !» dit Otte,
zieutant Eddie d'un air mauvais.
« Expliquez-moi ça, » dit Roland de sa voix la plus suave. « Je suis tout oui. Je voudrais partager votre kef. Et tout de suite. »
2. Alors, ils lui narrèrent l'histoire que connaissent par cœur tous les petits Américains du XXe siècle, ou presque. Celle d'une petite fermière du nom de Dorothy Gale, qu'un cyclone emporte en compagnie de son chien Toto jusqu'au pays d'Oz. Il n'y a pas d'interstate 70 à Oz, mais une route de briques jaunes ayant à peu de choses près la même fonction. On y trouve aussi des sorcières. Des bonnes et des méchantes. Il y a de même un quatet formé de Dorothy, Toto et des trois amis qu'elle se fait en cours de route, le lion peureux, le bûcheron en fer blanc et l'épouvantail. Et chacun d'eux a, oiseaux et ours, lièvres et poissons, un vœu très cher au fond de son cœur. Mais c'est à celui de Dorothy que les nouveaux amis de Roland, et Roland aussi, sur ce point, s'identifiait le plus fortement. Dorothy, qui ne désire qu'une seule chose, retrouver le chemin qui la ramènera chez elle. Les Munchkins lui disent qu'elle n'a qu'à suivre la route de briques jaunes jusqu'à Oz, explique Jake. Alors elle y va. En chemin, elle rencontre les autres, un peu comme tu nous as rencontrés nous, Roland.
Bien que tu ressembles pas des masses à Judy Garland, précisa Eddie, ajoutant son grain de sel.
Et bientôt, il trouve Oz, le palais d'émeraude et le type qui habite dedans.
Il se tourna en direction du palais de verre qui se dressait devant eux et verdissait à vue d'œil sous le soleil de plus en plus fort. Puis il reporta son regard vers Roland.
« Ouais, je comprends. Et ce bonhomme, Oz, c'est un puissant digne, un baron, un roi peut-être ?»
À nouveau, les trois échangèrent un coup d'œil dont Roland était exclu.
« C'est plus compliqué, » dit Jake. « C'est une espèce de bidonneur. »
« Un bidonneur ? Qu'est-ce que c'est ?»«
Un bidonneur !»
fit Jake, hilar, en éplant.
« Un truqueur. Tout en parole, rien en action. »
« Mais peut-être que le plus important, c'est que le magicien vient en fait... »
« Le magicien ?» demanda Roland d'un ton brusque. Sa main droite, amoindrie, agrippa Jake par l'épaule. « Pourquoi tu l'appelles comme ça ?»«
Parce que c'est son titre, mon chou, » intervint Susanna. « Le magicien d'Oz. »
Elle ôta gentiment mais fermement la main de Roland de l'épaule de Jake.
« Laisse-le dire maintenant, pas besoin de lui triturer l'épaule comme ça. »
« Je t'ai fait mal, Jake. J'implore ton pardon. »«
Ah, ça va, » fit Jake. « T'inquiète. » Bref, Dorothy et ses amis ont tout un tas d'aventures avant de s'apercevoir que le magicien est, tu sais bien, un bidonneur.
Jake pouffa à nouveau, se tournicotant une mèche de cheveux comme un gosse de 5 ans.
Il ne peut pas donner du courage au lion, ni de la cervelle à l'épouvantail, ni un cœur au bûcheron de fer blanc. Et pire que tout, il ne peut pas faire retourner Dorothy au Kansas. Le magicien a bien un ballon, mais il s'en va sans elle.
Je crois pas qu'il voulait faire ça, n'empêche que c'est ce qui se passe.
En t'écoutant raconter cette histoire, dit Roland, parlant très lentement, il me semble que Dorothy et ses amis possède depuis le début ce qu'il désire avoir.
C'est la morale de la fable, dit Eddie. C'est ce qui en fait peut-être une histoire aussi super.
Mais Dorothy est coincée à Oz, tu vois? Alors, Glinda apparaît. Glinda, la bonne sorcière. Et pour la récompenser d'avoir écrabouillé l'une des méchantes sorcières sous sa maison et avoir fait fondre l'autre, Glinda apprend à Dorothy comment se servir des souliers de rubis dont elle lui a fait cadeau. Eddie brandit les boots rouges à talons cubains déposés à son intention sur la ligne blanche discontinue de l'Interstate 70. Glinda dit à Dorothy qu'il lui suffit de claquer 3 fois des talons, que cela la ramènera au Kansas. Et c'est ce qui se passe. Et c'est la fin de l'histoire.
Ben, fit Jake, elle a eu tellement de succès que le type qui l'a écrite a repris la plume et couché sur le papier. Je sais combien d'autres aventures au pays d'Oz.
Ouais, confirma Eddie. Tout et n'importe quoi, sauf les cours d'aérobic de Glinda.
Il y a même eu un remake du film, complètement dingue, où ne jouaient que des blacks. The Wiz.
Sans blague, s'exclama Susanna avec stupéfaction. Quelle drôle d'idée!
Mais, d'après moi, le seul qui compte vraiment, c'est la première version, conclut Jake.
Roland se mit à croupeton et glissa la main dans les bottes qui lui étaient destinées. Il les souleva, les examina sur toutes les coutures et les reposa sur la route. Vous croyez qu'il nous faut les mettre ici et maintenant? Ses 3 amis de New York échangèrent un regard dubitatif. Puis Susanna s'exprima au nom de 3, lui insuffla le kef qu'il éprouvait sans pouvoir le partager de lui-même.
Pas tout de suite. Ça doit valoir mieux. Il y a trop d'esprits mauvais par ici.
Des esprits Takuro, murmura Eddie à son seul bénéfice ou tout comme. Avant d'ajouter, écoutez, on n'a qu'à les prendre avec nous. Si on doit les mettre, je crois qu'on le saura, le moment venu. En attendant, faut qu'on se méfie des bidonneurs et de leur présent. Ce qui plia Jake en 2, comme Eddie l'avait prévu. Parfois, un mot ou une image se loge comme un virus dans votre rate qu'il chatouille à point nommé pendant un certain temps. Demain aussi bien, le mot « bidonneur » n'évoquerait plus rien au gamin. Aujourd'hui, en revanche, il s'esclafferait, se bidonnerait tant qu'on y était, chaque fois qu'il l'entendrait prononcer. Eddie comptait bien en user et en abuser, surtout quand son pote Jake s'y attendrait le moins. Ils firent donc main basse sur les souliers rouges qu'on avait laissés à leur toute spéciale intention sur les voies est de l'autoroute. Jake se chargeant de ceux dotés, et reprirent leur marche en direction du château de verre miroitant. « Oz, » songea Roland. Et il eut beau fouiller dans sa mémoire, il lui sembla bien ne jamais avoir entendu ce nom auparavant. Même pas sous la forme d'un mot du haut-parler déguisé, comme Char se dissimulait dans Charlie le Chouchou. Cependant, il avait une sonorité adéquate à ce genre de plaisanterie. Une sonorité appartenant davantage à son monde à lui qu'à celui de Jake, Susanna et Eddie, où cette histoire avait pris forme. 3. Jake s'attendait à ce que le palais vert, au fur et à mesure qu'il s'en rapprocherait, prenne un aspect plus normal, dans le genre des attractions de Disney World, un aspect pas nécessairement banal, mais normal, comme celui des éléments quotidiens du monde, tels les arrêts de bus, les boîtes aux lettres ou les bancs publics, des choses qu'on pouvait toucher et sur lesquelles on pouvait gribouiller « Merde à Piper » si l'envie vous en prenait. Mais cela ne se produisait pas, ne se produirait pas. Et alors que le palais vert devenait plus proche, Jake prit conscience d'autre chose. Il avait devant lui la chose la plus belle et la plus resplendissante qu'il eût jamais vue. Même s'il n'en croyait pas ses yeux, cela ne changeait rien au fait. On aurait dit une illustration d'un livre de contes de fées, si parfaite qu'elle était devenue réalité. Et à l'exemple de la tramée, il bourdonnait, mais beaucoup plus faiblement et d'une façon tout sauf déplaisante. Les murs vert pâle étaient couronnés de remparts en saillie et de tours élancées qui semblaient toucher les nuages flottant sur les plaines du Kansas. Ces tours étaient prolongées par des flèches d'un vert émeraude plus sombre où des oriflammes rouges claquaient au vent. Chaque oriflamme arborait en jaune le symbole de l'œil grand ouvert.
« C'est la marque du roi cramoisi, » songea Jake. « C'est son sigle, en fait, et pas celui de John Farson. »
Il ignorait comment il savait cela. Comment était-ce possible d'ailleurs quand la Crimson Tide d'Alabama était le seul machin cramoisi dont il ait entendu parler?
Et pourtant, c'est si beau, murmura Susanna.
Quand Jake lui lança un coup d'œil, il lui sembla qu'elle était au bord des larmes.
Mais pas agréable pour autant, pas faste, peut-être pas carrément néfaste comme la tramée, mais pas agréable, quoi. Dit Eddie.
Ouais, ça marche. Y a peut-être pas de quoi allumer un clignotant rouge, mais un orange, si. Il se frotta la joue, un tic de Roland qu'il avait adopté sans s'en rendre compte, un peu désemparé.
J'ai du mal à prendre ça au sérieux. On dirait presque une farce.
Je doute fort que ça en soit une, dit Roland. Vous pensez que ça pourrait être une réplique de l'endroit où Dorothy et son cathètre rencontrent le faux magicien ? De nouveau, les trois New-Yorkais semblèrent se consulter d'un bref coup d'œil. Puis Eddie s'improvisa leur porte-parole.
« Ouais ? Ouais, probable.
Il ressemble pas à celui du film, mais si ce truc sort de nos têtes, c'est normal, parce qu'on a aussi celui du bouquin de L. Frank Baum devant les yeux. » « Celui des illustrations du bouquin. »«
Et celui qu'on s'est imaginé en le lisant, » ajouta Jake. « Mais c'est lui, » dit Susanna. « Et à mon avis, on est bien parti pour voir le magicien. »«
Tu parles ?» en chéri Eddie.
« À cause qu'il fait de si merveilleuses choses. »
achevèrent en chantant à l'unisson Jake et Susanna, ponctuant le tout d'un éclat de rire très content d'eux. Roland, déconcerté, se rembrunit, semblant exclu.
« Mais il faut que je vous dise un truc, les mecs, » fit Eddie. « Encore une merveilleuse chose de ce genre, et je me retrouve aussi sec sur la face cachée de la lune des lunatiques. Et pour de bon, probable. »
4. D'encore plus près, ils constatèrent que l'Interstate 70 pénétrait en profondeur le vert pâle du mur d'enceinte, légèrement renflé du château, et y flottait comme une illusion d'optique. Plus près encore, et ils entendirent les oriflammes claquer dans la brise et aperçurent leurs propres reflets tremblotants, tels des noyés arpentant le fond de leurs sépultures tropicales et aquatiques. Il y avait à l'intérieur de cette forteresse une redoute de vert bleu foncé, couleur que Jake associa aux bouteilles d'encre pour porte-plume. Un chemin de ronde couleur rouille reliait la redoute à la muraille extérieure. Et cette couleur-là évoqua à Susanna les bouteilles de root beer de son enfance. L'accès au château était barré par une grille, à la fois énorme et impalpable. On aurait dit du fer forgé transmué en verre filé. Tous les barreaux ingénieusement fabriqués étaient de couleurs différentes. Et toutes ces couleurs semblaient sourdre de l'intérieur, comme si chacun de ces barreaux était rempli de gaz ou d'un liquide luminescent. Nos voyageurs s'arrêtèrent devant. Au-delà, plus aucune trace de l'autoroute. À sa place, une cour d'entrée de verre argenté. Il s'agissait en fait d'un immense miroir posé à plat. Des nuages flottaient sereinement à sa surface, et à l'occasion, un oiseau volant en piqué. Le sol vitrifié de cette cour réfléchissait le soleil qui venait ondoyer sur les murailles vertes du château. À l'autre extrémité, le mur de la citadelle du palais s'élevait, telle une falaise d'un vert brasillon, percée de meurtrières de verre d'un noir de jais. Le porche qui s'ouvrait dans ce mur rappela à Jake celui de la cathédrale Saint-Patrick. À gauche de l'entrée principale, on voyait la guérite d'une sentinelle en verre couleur crème à entrefilets orange flouté. La porte de la guérite, peinte de rayures rouges, était ouverte. L'habitacle, pas plus grand que celui d'une cabine téléphonique, était vide, bien qu'il y eût sur le sol quelque chose que Jake estima être un journal. Au-dessus de l'entrée, flanquant l'obscurité du porche, se tapissaient deux gargouilles de verre d'un violet très foncé, et à l'œil égrillard, elles dardaient leur langue pointue couleur d'échymose. Les oriflammes au sommet des tours claquaient comme les fanions d'un mât de cocagne. Des corbeaux croassaient au-dessus des champs de blé, déserts en cette semaine d'après la moisson. Au loin, la tramée geignait et gazouillait sans relâche.
« Visez-moi les barreaux de cette grille !» dit Susanna. Elle avait l'air essoufflée et frappée de terreur. « Regardez-les de près !»
Jake se pencha vers le barreau jaune à le toucher du nez. Une imperceptible rayure jaune stria son visage verticalement. Au début, il ne distingua rien. Puis soudain, il hoqueta. Ce qu'il avait pris pour des atomes de poussière en suspension étaient de petites créatures, vivantes, emprisonnées à l'intérieur du barreau, nageant en minuscules bancs. On aurait dit des poissons dans un aquarium, mais dotés, à cause de leur tête, je crois, se dit Jake, surtout à cause de leur tête, d'une apparence étrangement humaine, fortement dérangeante. Un peu comme si, songea Jake, il regardait dans une mer dorée verticale tout l'océan contenu dans une tige de verre où nageaient des mythes vivants pas plus gros que des grains de poussière. Une femme minuscule à queue de poisson et à longue chevelure blonde flottant derrière elle vint se coller au gré de ses évolutions à la paroi vitrée et parut scruter le garçon géant. La sirène ouvrait de magnifiques yeux ronds interloqués avant de s'éloigner d'un coup de queue. Jake se sentit soudain pris de faiblesse. La tête lui tournait. Il ferma les yeux jusqu'à ce que la sensation du vertige le quitte, puis les rouvrit et se retourna vers les autres.
« Nom de bleu ! Ils sont tous pareils ?»«
Tous différents, je dirais, » fit Eddie, qui avait déjà jeté un œil dans deux ou trois. Se penchant sur le barreau violet, ses joues parurent éclairées par un antique écran de radioscopie. Ces gars-là, on dirait des oiseaux, de tout petits oiseaux. Jake vint regarder et vit qu'Eddie avait raison. L'intérieur du barreau violet de la grille était plein de volées d'oiseaux pas plus gros que des fruits de graminées. Ils volaient en piqué de ci de là dans leur éternel crépuscule, ou bien en nuées entrelacées, abandonnant dans le sillage de leurs ailes de minuscules traînées de bulles argentées.
« Ils sont vraiment là, Roland ?»
demanda Jake, le souffle coupé.
« Ou bien, on ne fait que les imaginer ?»«
Je ne sais pas. En revanche, je sais à quoi cette grille est censée ressembler. »« Moi aussi, » fit Eddie. Il examina les barreaux colorés, chaque colonne lumineuse emprisonnant des formes de vie. Chaque battant de la grille comportait 6 barreaux de couleur. Celui du centre, non plus rond mais large et plat, conçu pour se diviser en deux à l'ouverture de la grille, était le 13e, d'un noir de mort, inanimé, semblait-il.
« Même si tu vois rien, il y a des trucs qui s'agitent là-dedans. C'est sûr, » songea Jake. Il y a de la vie là-dedans, une vie effrayante. Et peut-être des roses aussi, des roses noyées.
« C'est bien là une grille de magicien, » déclara Eddie. « Chaque barreau est à l'image d'un cristal de l'arc-en-ciel de Merlin. Regardez, voici le rose. » Jake se pencha vers celui-là, les mains posées sur les cuisses. Il savait ce qu'il contenait avant même de le voir. Des chevaux, évidemment. Des bandes de chevaux minuscules galopant à travers cette étrange matière rose, ni lumière, ni liquide. Des chevaux lancés à la recherche d'un aplomb qu'ils pourraient bien ne trouver jamais. Eddie fit mine de vouloir agripper le barreau central, le noir.
« Fais pas ça !»
lui intima Susanna sèchement. Eddie passa outre. Mais Jake remarqua que sa poitrine ne se souleva plus et qu'il serra fort les lèvres quand il saisit le barreau noir à pleine main, s'attendant à tout et n'importe quoi,
Peut-être qu'une force quelconque dépêchée en express depuis la tour sombre ne le métamorphose ou ne le foudroie sur place. Comme rien ne se passait, il reprit son souffle avec un petit sourire.
C'est pas électrifié, mais...
Il tira. La grille tint bon.
Ça veut pas céder non plus ?
J'ai beau voir la ligne de partage, rien à faire.
Tu veux essayer un coup, Roland ?
Le pistolero eut à peine le temps de donner une première secousse que Jake lui posait la main sur le bras pour l'empêcher de continuer.
« Te fatigue pas. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. »
« Alors comment ?» Au lieu de lui répondre, Jake s'assit devant la grille, près de l'endroit où l'étrange version de l'Interstate 70 se terminait. Il se mit à chausser les souliers qui lui étaient destinés. Eddie le regarda faire un instant, puis s'assit à ses côtés.
« Je pense qu'il faut essayer, » dit-il à Jake, « même si ça se révèle n'être qu'un nouveau tour du bidonneur. »
Jake s'esclaffa, secoua la tête et resserra les lacets de ses derbies rouge sang. Eddie et lui savaient fort bien que le bidonneur n'avait rien à voir là-dedans. Pas cette fois. 5.
Ok,
fit Jake, quand ils se retrouvèrent tous chaussés de rouge, ce qui leur donnait à tous une drôle de dégaine, jugea-t-il, en particulier à Eddie.
Je vais compter jusqu'à 3, et on claquera des talons tous ensemble, comme ça.
Il claqua ses mocassins une seule fois, vivement. Et la grille tremblota comme un volet mal attaché que secoue un fort coup de vent. Susanna poussa un cri. Le palais vert émit un son éolien comme si ses murailles s'étaient mises à vibrer.
« À mon avis, avec les souliers, le tour sera joué, » dit Eddie. « Mais je vous préviens, comptez pas sur moi pour chanter « Over the Rainbow ». Ça figure pas sur mon contrat. »
« L'arc-en-ciel est ici, » dit le pistolero, doucement, désignant la grille de sa main amputée. Ce qui balaya le sourire d'Eddie.
« Ouais, je sais. C'est comme qui dirait la trouille, Roland. »«
Moi aussi, » répondit le pistolero. Jake trouva en effet qu'il était d'une pâleur maladive.
« Vas-y, mon chou !» l'encouragea Susanna. « Compte avant qu'on se décourage trop. 1, 2, 3 !»
Ils claquèrent des talons à l'unisson, et avec une certaine solennité. Toc, toc, toc! La grille tremblota plus violemment cette fois. La couleur de chaque barreau s'intensifia de façon perceptible. Le carillon qui suivit sonna plus clair et plus agréablement, tel le plus fin cristal heurté par le manche d'un couteau. Jake, partagé entre le plaisir et la douleur, frissonna en entendant se répercuter à tous les échos ces sons harmoniques de rêve. Mais la grille ne s'ouvrit point.
« Qu'est-ce que... » fit Eddie. « J'ai compris, » dit Jake. « On a oublié O.T. »«
Ah, merde !» fit Eddie. « Dire que j'ai abandonné le monde que je connaissais et tout, pour voir un gosse mettre des bottillons à une fouine manquée. Je te demande de me descendre, Roland, avant que je procrée. »
Roland l'ignora, regardant attentivement Jake s'asseoir sur l'asphalte de l'autoroute et appeler
« O.T. Viens ici !»
Le bafouilleux s'approcha d'assez bonne grâce. Bien qu'il eût été à coup sûr une créature sauvage avant qu'il ne le rencontre sur le sentier du rayon, il laissa Jake lui glisser les bottillons de cuir rouge aux pattes sans protester. En fait, une fois qu'il eut compris de quoi il retournait, il enfila de lui-même les deux derniers. Une fois les quatre bottillons en place, à vrai dire, de l'ensemble des souliers rouges, c'étaient les plus semblables aux escarpins rubis de Dorothy. O.T. en renifla un, puis leva un regard interrogateur vers Jake. Ce dernier claqua des talons 3 fois, sans quitter le bafouilleux des yeux, ni prêter attention au grincement de la grille et au carillon des murailles du palais vert.
« À toi, O.T. »«
O.T. »
Il roula sur le dos comme un chien qui fait le mort, puis fixa ses pattes avec une sorte d'ahurissement dégoûté. À le voir ainsi, Jake eut un souvenir d'une très grande netteté.
Il se revit essayant de se taper sur le ventre et de se frotter la tête en même temps, et son père se moquait de lui parce qu'il n'y arrivait pas du premier coup.
« Aide-moi, Roland. Il sait ce qu'on attend de lui, mais il ne sait pas comment faire. »
Jake lança un coup d'œil à Eddie.
« Et pas de vanne, ok ?»«
Dak, » fit Eddie.
« Pas de vanne, Jake. Tu crois qu'Otté doit faire ça en solo ou bien qu'il faut qu'on le refasse en groupe encore une fois ?»«
Lui tout seul, je pense. » »«
Mais ça serait pas mal qu'on claque aussi des talons, Léon, » dit Susanna.
« Léon qui ?» demanda Eddie, bêtement.
« On t'écrira. Allez, Jake, Roland, en place. Recompte, Jake. »
Ce dernier saisit Otté par les pattes de devant, Roland plus doucement par ses pattes de derrière. La manœuvre parut rendre Otté nerveux, comme s'il s'attendait à être balancé dans les airs aux accents du vieux refrain « Oh, is !» Mais il ne se débattit pas. « 1, 2, 3 !» Ensemble, Jake et Roland cognèrent doucement l'une contre l'autre les pattes avant et arrière d'Otté. Au même moment, ils claquèrent des talons imités par Susanna et Eddie. Cette fois, retentit un ding-dong, harmonieux, profond et doux à l'oreille, comme celui d'une cloche d'église en verre. Le barreau noir au centre de la grille, au lieu de se séparer en deux, vola en éclats, expédiant des débris de verre couleur d'obsidienne dans toutes les directions. Certains vinrent crépiter sur le pelage d'Otté, qui, s'arrachant à l'emprise de Jake et Roland, se remit sur pied en vitesse et trottina un peu plus loin. Il alla s'asseoir sur la ligne blanche discontinue de l'autoroute, séparant la voie rapide de celle de droite, les oreilles couchées, la langue pendante, et sans quitter la grille des yeux.
« En avant !» dit Roland, poussant en douceur le battant gauche de la grille qui céda.
Il se tenait à l'entrée de la cour en miroir, grand échalas de cow-boy en jean, vieille chemise d'une couleur indéfinissable et bottes rouges invraisemblables. « Entrons voir ce que le magicien d'Oz a à nous dire pour sa défense. »«
S'il est encore là, » dit Eddie.
« Oh, je pense qu'il y est encore, » murmura Roland.
« Oui, il est là. »
Il se dirigea vers la porte principale flanquée de la guérite dénuée de sentinelles. Les autres lui emboîtèrent le pas, soudés à leur propre reflet par les souliers rouges, comme autant de paires de jumeaux siamois. Otté fermait le banc, gambadant avec agilité sur ses rouges bottillons. Il s'arrêta un instant pour renifler le reflet de sa propre truffe.
« Otté !»
cria-t-il au bafouilleux dont l'image flottait sous ses pattes. Puis il se pressa de rejoindre Jake.